Radio Classique, et votre journée devient plus belle.
Radio Classique, il est 8h, bienvenue à tous.
La matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
Voilà, 1 200 000 d'entre vous nous écoutent chaque journée. Nous sommes ravis, 240 000 de plus en un an. Et alors que nous avons évidemment beaucoup moins d'émetteurs que nos chers voisins que nous embrassons ce matin. Comment va évoluer le combat des troupes françaises au Sahel? 220 soldats s'apprêtent à partir pour renforcer la force Barkhane. Il y avait un sommet, on en a parlé il y a quelques instants avec Emmanuel Faux à Pau. L'aménagement des seniors au cœur des négociations donc aujourd'hui entre les partenaires sociaux et le gouvernement. Et puis la reine Elisabeth II rendra-t-elle visite à Harry et Meghan outre-Atlantique? Le couple s'envole vers sa nouvelle vie qui a pour nom donc le Canada. Nous allons donc retrouver mon cher Guillaume Tabar.
Bonjour.
Bonjour.
Heureux également de ces audiences.
De quel est le sujet de la matinale?
Et bien le retour surprise de François Fillon.
Radio Classique.
Donc, nous vous le disions, 1 200 000 personnes nous écoutaient chaque jour, 240 000 de plus en un an. On donne l'impression peut-être ce matin de se répéter, mais c'est une bonne nouvelle pour vous et une bonne nouvelle pour nous. Donc, il est tout à fait normal que ce cœur qui nous porte se réchauffe à l'annonce de ces chiffres. Commençons par cette présence d'Emmanuel Macron à Pau, donc chez François Bayrou, pour un G5 Sahel consacré au renforcement, ma chère Sophie Echen. Rebonjour de la présence militaire française.
Oui, le chef de l'ENA de l'État l'a donc annoncé hier à l'issue du G5, vous l'avez dit, consacré à cette région d'Afrique. 220 soldats vont être déployés sur place. Bonjour Lucille Bréau.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Ces militaires vont venir renforcer l'opération Barkhane.
Un geste fort alors que le sentiment anti-français progresse au Mali et au Burkina Faso. Entre autres, la présence des 4500 hommes de Barkhane n'a pas suffi à stopper les attaques djihadistes dans la région. Elles ont repris avec encore plus d'intensité ces derniers mois. Ce qu'Emmanuel Macron veut combattre, c'est une propagation de cette menace.
Nous sommes au Sahel, en guerre contre des groupes armés terroristes, parce que nous savons que c'est une menace qui ne reste jamais locale. Nous sommes là pour permettre aux États sahéliens d'assumer leur pleine souveraineté sur le territoire.
Une réponse à ceux qui accusent Paris d'ingérence, une montée en charge alors qu'en parallèle, les États-Unis, eux, envisagent de se désengager de la zone. Je rappelle qu'en 7 ans, la France a perdu 41 soldats au Sahel.
Merci, Lucille Bréau. Le maréchal libyen Haftar a quitté Moscou sans signer la trêve paraphée par son rival Fayez al-Sarraj, alors que des négociations étaient en cours depuis hier pour permettre la signature d'un accord formel de cessez-le-feu en Libye.
En France, évidemment, la grève autour de la réforme des retraites. La mobilisation continue, nous en sommes au 41e jour.
Et une journée quasi similaire à hier dans les transports, avec 8 TGV sur 10, les 3 quarts des TER et la moitié des intercités. À Paris, toutes les lignes de métro sont ouvertes, la moitié d'entre elles fonctionnent normalement. Les opposants au projet de réforme à nouveau dans la rue aujourd'hui. L'intersyndicale appelle au rassemblement à Paris. La manifestation est prévue à 14h au départ du métro École Militaire.
Après l'annonce du retrait provisoire de l'âge pivot par Édouard Philippe, c'est le soulagement au sein de la majorité.
Le groupe La République En Marche était en séminaire hier. Et si les députés marcheurs se félicitent du retrait sous condition de l'âge pivot, le débat autour de cette mesure a tout de même laissé des traces dans la majorité. Victoire Fort.
Du côté des députés proches de Matignon, service après-vente d'un groupe que l'on aimerait uni.
La totalité du groupe La République En Marche est satisfaite.
Les parlementaires examineront le texte en même temps que la conférence de financement. Aucune erreur dans l'agenda pour Gilles Legendre, patron du groupe.
La question du financement qui est stratégique, qui est essentielle en termes de texte, représente une toute petite partie du texte. Le Premier ministre qui a été l'artisan de cet accord mérite notre reconnaissance.
La majorité ne peut plus dire qu'on ne négocie pas, insiste un député. Sauf que les dernières semaines ont laissé des traces, tribunes dans la presse, rencontres officieuses avec Laurent Berger. L'aile gauche est sortie du bois. Martine Vonner, députée du Bas-Rhin.
Nous allons avoir un travail important d'amendement, un travail qui a très largement commencé pour nous. Donc nous verrons ce que nous pourrons faire pour améliorer et aller dans le sens de prise en compte de facteurs de pénibilité.
Les débats du mois prochain pourraient être agités.
Ça va se jouer très serré, ça va se jouer dans un rythme très soutenu.
Voilà un marqueur qui met tout le monde d'accord, avancer, amender, voter. Une hyperactivité législative presque entrée dans l'ADN d'En Marche.
Victoire Fort. Et en attendant, les négociations se poursuivent. Syndicats et patronats sont attendus au ministère du Travail aujourd'hui. Au menu des discussions, la question de l'aménagement de la fin de carrière. En France, le taux d'emploi des 50-64 ans reste très en dessous de la moyenne des autres pays européens. Alors pourquoi a-t-on tellement de mal à adapter le travail à nos seniors? Marc Reynaud est président fondateur de l'Observatoire du Management Intergénérationnel. Il estime qu'il faut d'abord commencer par mieux les valoriser.
En France, on a installé une culture de la pré-retraite qui est installée durablement dans la tête des gens qu'à partir de 50 ans, on n'a plus d'avenir, alors que la croisière est encore longue quand vous avez 50 ans. Donc la première chose, c'est vraiment de leur demander ce qu'ils ont envie de faire, en les formant, de les valoriser. Dans d'autres pays comme les pays scandinaves, on a compris que quand on travaille plus longtemps, il faut aménager les conditions de travail, et c'est-à-dire travailler de moins en moins, mais de plus en plus longtemps, ce qui permet aux gens de se sentir utiles plus longtemps, et au bout du compte, plus heureux.
Marc Reynaud avec Mélina Fachin. Hier, ce sont 500 millions d'euros qui ont été débloqués par le ministère de l'Éducation pour augmenter les salaires des professeurs d'ici 2021. Une demande formulée de longue date par les syndicats et qui devrait permettre de compenser les effets de la réforme des retraites.
Et il ne serait pas étonnant que la même chose soit faite, évidemment, en direction de l'hôpital. C'est un joli pactole versé par Airbnb à plus de 28 000 communes.
Et 58 millions d'euros, il s'agit en fait du montant des taxes de séjour que la plateforme a collecté pour l'an dernier. C'est deux fois plus que pour l'année précédente, sachant que novembre et décembre n'ont pas encore été comptabilisés. Alors ce chiffre s'explique. Airbnb est d'abord de plus en plus utilisé. Certaines villes ont ensuite augmenté les tarifs. Et puis la collecte de cette taxe est désormais automatique depuis fin 2018. Émilie Vallès.
Airbnb reverse cette taxe de séjour aux collectivités qui ont elles-mêmes fixé le montant. C'est entre 1 et 5% du prix de l'hébergement par nuit et par personne. Et les petites communes sont les grandes gagnantes, selon Emmanuel Maril, directeur général France d'Airbnb.
Alors les communes de moins de 3500 habitants, donc on est sur des villages, ont touché plus de 10 millions d'euros. Vous n'avez pas d'hôtel ou de capacité d'accueil plus traditionnelle dans chacune de ces communes. Il y a des hôtels dans 7000 communes en France. Donc il y a 21 000 communes qui ont touché de l'argent grâce à la taxe de séjour, grâce à Airbnb, qui auparavant ne touchaient pas d'argent du tourisme.
Et alors que la taxe d'habitation disparaît, les communes sont tentées de trouver d'autres ressources comme ces taxes de séjour, même si Cédric Zabot de l'Association des maires ruraux de France veut nuancer les retombées.
C'est pas les sommes que ça représente qui vont solvabiliser les communes. C'est important de les percevoir. Mais c'est pas ça qui fait bouillir la marmite. Simplement, ce sont des ressources nouvelles qui n'existaient pas et qui viennent témoigner du fait qu'on arrive à dynamiser davantage nos territoires, indépendamment finalement de l'attractivité touristique. Ça va très largement au-delà des seules communes qui ont un patrimoine, qui ont un site remarquable.
Mais selon lui, au-delà des taxes, ces nouvelles formes d'hébergement permettent aussi de stimuler l'économie locale, les petits commerces notamment.
Émilie Vallès. La grande distribution est en plein doute.
Et après Carrefour qui a taillé dans ses effectifs, c'est le groupe Auchan qui pourrait faire de même aujourd'hui. Trois comités sociaux et économiques des CES sont prévus dans le Nord. Les salariés craignent un plan de départ volontaire. Près de 1000 emplois seraient concernés.
Nous allons terminer évidemment par cette affaire Outre-Manche qui continue de passionner nos amis les Britanniques, à savoir donc Meghan, Harry et la reine.
Après l'annonce choc du couple, la reine Elisabeth II a réuni une cellule de crise et la Queen a consenti, à regret, à laisser son petit-fils et son épouse voguer vers leur nouvelle vie. Bonjour Augustin Lefebvre.
Bonjour Sophie, bonjour à tous.
Et justement, en quoi va consister cette nouvelle vie?
Eh bien, Harry et Meghan vont s'installer une partie de l'année au Canada, où le service de l'immigration a déjà précisé qu'ils devront remplir un dossier pour devenir résident permanent, comme tout le monde. Ils vont devoir trouver un métier parce qu'ils veulent être financièrement indépendants et qu'ils ont renoncé à leur allocation royale. Alors, il n'y a pas trop de soucis à se faire pour eux, ça ne représente que 5% de leurs revenus. Et pour tous ceux qui imaginent le prince Harry boulanger, comptable ou même journaliste, désolé, il est plus probable que le couple décide de capitaliser sur sa célébrité. Le duc et la duchesse de Sussex ont fait déposer la marque Sussex Royal. Autre changement, leur relation avec les médias. Ils ont beaucoup critiqué les tabloïds, et bien ils vont prendre de la distance. Mais même en retrait de la famille royale, il faudra assurer leur sécurité, ce qui coûte cher. Le Canada se dit prêt à jouer un rôle en tant que membre du Commonwealth, mais comme sur de nombreux sujets, c'est une question qu'il faudra régler dans les prochaines semaines.
Merci Augustin Lefebvre.
Eh bien, c'est la fin du journal de 8h. Il est 8h09. Et pour faire plaisir à Thomas Koff et à toute l'équipe des réalisateurs qui nous accompagnent tout au long de l'année sur Radio Classique, nous allons rendre hommage à Daniel Balavoine qui est mort à 33 ans en plein Paris-Dakar. La course se déroule actuellement en Arabie Saoudite. D'ailleurs, un pilote moto est mort ces dernières 48 heures. Pour Balavoine, c'était un accident d'hélicoptère le 14 janvier 1986. Jolie chanson quand il évoquait son fils et sa bataille.
Ça me fait pas peur, c'est mon fils, ma bataille, va débarquer.
rassure, nous écouterons Don Giovanni tout à l'heure, puisque Joseph Losey, le célèbre metteur en scène britannique, avec qui d'ailleurs Jeanne Moreau a vécu une partie de sa vie, est né le 14 janvier 1909. Et nous écouterons donc un extrait d'un air tiré de son film, donc Don Giovanni, réalisé par Joseph Losey. Il est 8h10, c'est la partie politique du journal. Nous avons rendez-vous avec Louis Alliot et avec Guillaume Tabar. 8h10, vous êtes sur l'antenne de Radio Classique et nous avons gagné 240 000 auditeurs en un an.